La manière dont un chrétien va se utiliser un texte de l'Ancien Testament. Et puis, un autre texte aussi, qui est une homélie sur un psaume. C'est sur le psaume 41. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te désire, ô mon Dieu. Nos baptisés, alors vous voyez, souvent on prêche pour les catéchumènes ou les néophytes. Nos baptisés sont pareils à des cerfs qui cherchent l'eau vive. Abandonnant l'Égypte et le monde, ils ont mis à mort Pharaon qui s'est noyé dans la mer et ils ont tué toute son armée dans le bain du baptême. Après l'écrasement du démon, vous voyez, donc Pharaon c'est le démon, ils désirent les sources de l'Église, vous sonnez les 70 sources à la sortie de la mer Rouge. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sur le Père, qui est une source, il est écrit dans Jérémie. Ils m'ont délaissé, moi, la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes lézardées qui ne gardent pas l'eau. Sur le Fils, il y a ce passage, ils ont abandonné la source de la sagesse. Et sur le Saint-Esprit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il jaillira en lui une source jaillissante pour la vie éternelle. Cette parole se comprend aussitôt, puisque l'évangéliste nous dit que le Sauveur parlait alors du Saint-Esprit. Par ces textes, il est prouvé avec la plus grande évidence que ces trois sources de l'Église correspondent au mystère de la Trinité. Donc c'est pour ça que souvent les pères parleront de « Ecclesia a Trinitate », donc de l'Église qui provient de la Trinité. Alors ce sont ces sources que désire l'âme du croyant. C'est elle que désire l'âme du baptisé lorsqu'elle dit « Mon âme a soif de Dieu, la source vive ». Elle ne s'est pas contentée d'une velléité de voir Dieu. Elle l'a désiré de toute son ardeur. Elle a eu soif de toute sa brûlure. Avant de recevoir le baptême, les catéchumènes se disaient entre eux « Quand pourrais-je m'avancer et paraître devant la face de Dieu ?» Voici réaliser ce qu'ils demandaient. Ils se sont avancés et ils se sont tenus devant la face de Dieu. Ils ont paru devant l'autel et devant le mystère du Sauveur. Admis à recevoir le corps du Christ et renés dans la source vivifiante, ils disent avec confiance « Je passerai jusqu'à la tente admirable, jusqu'à la maison de Dieu. » La maison de Dieu, c'est l'Église. C'est elle la tente admirable, car elle est la demeure des cris de joie et de louange de la multitude en fête. Vous qui avez maintenant revêtu le Christ, vous qui suivez notre direction, comme les petits poissons suivent l'appât, laissez-vous soulever par la parole de Dieu hors des flots de ce monde et parlez donc ainsi. En nous, les lois de la nature sont changées, car lorsque les poissons sont tirés hors de la mer, ils meurent, mais nous, les apôtres, nous ont tirés de la mer de ce monde pour que nous passions de la mort à la vie. Tant que nous étions dans le monde, nos regards se perdaient dans les bas-fonds, notre vie se passait dans la vase. Maintenant que nous avons échappé aux flots, nous avons commencé à voir le soleil, à regarder la vraie lumière, et bouleversés par une joie immense, nous disons à notre âme, « Espère en Dieu, car je lui rendrai grâce, à lui, mon Sauveur et mon Dieu. » Vous voyez, c'est beau, hein? Et vous voyez comment il renverse complètement l'image du poisson, hein, qui... en fait, il faut mourir pour entrer dans la vie. Il dit, donc, le poisson doit mourir pour passer dans son... Enfin, en fait, pour passer dans son véritable élément. Et vous comprenez que la vraie vie, c'est la vie spirituelle hors du monde, et vous retrouvez en somme l'arrière-plan platonicien ou néo-platonicien de Jérôme, et en même temps son tropisme monastique. Hein, autrement dit, mais saisissez aussi que c'est vraiment le baptême, c'est le résultat d'une conversion. Songez qu'il a été baptisé à 20 ans, hein, donc pour lui, ce qu'il dit, il l'a vécu, hein, certainement. Je pense à Pavel, mais on aurait pu penser à Hume ou à d'autres, mais il y a certainement cette chose le baptême est un avant et un après, en amont. Donc voilà pour Saint Jérôme.
Où est-ce qu'il est mort?
Alors, il est mort à Bethléem. Hein.
Mais ça, quand vous disiez Antioche, c'est Antioche ou Bethléem ? Enfin, oui, il était entre les deux.
Il a beaucoup bougé. Il a d'abord été il était en Syrie, il a habité un temps à Antioche. Ensuite, il retourne à Rome pour travailler avec Damase. À la mort de Damase, comme il avait accumulé les inimitiés, il se prend un peu de distance. Donc, il part en Palestine avec ces dames, et puis ils font ces monastères, et là il vit avec une intense correspondance. Hein. Il était à Bethléem, mais en fait il était au courant de tous les potins de Rome. Hein. Donc et d'ailleurs c'est pour ça qu'il sera si secoué de. Je crois qu'il y a, je me demande s'il y a pas un texte de lui sur le sac de Rome qui est assez. Il y a un texte de lui sur le sac de Rome. Il faudrait que je vous le retrouve, et qui est vraiment très, très touchant, parce qu'on sent, enfin, d'abord parce que parmi les réfugiés, il retrouve des gens qu'il connaît, et puis des gens vraiment qui ont tout perdu. Enfin, puis il connaissait des gens qui n'étaient pas pauvres, donc, et des gens qui ont vraiment tout perdu.
Et qui se sont installés
qui se sont installés comme ils pouvaient. Et donc lui, avec ses monastères, ils ont accueilli les réfugiés, les ont nourris, etc., etc. Donc voilà. Alors on va passer aux contemporains légèrement plus jeunes de Jérôme, qui est Augustin. Augustin, il est né, alors, autant pour Jérôme, on ne sait pas trop. Parfois, on n'est pas tout à fait certain des dates. Pour Augustin, on sait qu'il est né en 354. Alors Augustin passerait plus de temps, parce qu'il est... En fait, finalement, tout à l'heure, je disais à Benjamin dans son émission, Benjamin Blanchard, j'ai enregistré... Elle passe samedi soir, le 16 juin. Le 16 juin au soir.
C'est sur quoi ?
C'est sur... de la semaine d'après. C'est sur la thèse de Ratzinger, sur Saint-Augustin. Donc justement, j'ai pris le métro en passant par la station Saint-Augustin, et puis j'ai parlé de Saint-Augustin à Benjamin, qui avait l'air un peu endormi, et puis c'est très bien, parce qu'en fait, c'était comme un dialogue de Platon, parce que à peu près tous les quarts d'heure, il y avait « Vous écoutez Radio Courtoisie, monsieur l'abbé, vous avez dit que... » Et puis donc une phrase, et après, pof, j'envoyais sur un quart d'heure de monologue. Non, c'était une heure et demie. Comme ça, au moins, c'est bien Radio Courtoisie, on n'est pas interrompu toutes les minutes.
Cette émission dure 3 ans. Qui est lié avant ou après vous ?
Alors, je crois que c'était une fille qui allait en Irak. En Irak, qui fera une... Non, samedi, je crois, le 16, il me semble.
Le 16, c'est ça.
Oui, c'est ça. Le 16, c'est un samedi, oui, c'est ça. Alors du coup, j'ai parlé de la thèse de Ratzinger, essentiellement. Alors, sa biographie, on va d'abord s'arrêter à sa biographie, parce que ça vaut le coup quand même. Alors, sa biographie nous est connue par les confessions. Donc je passerai des extraits des confessions. Qui a lu les confessions déjà ? Les confessions, ces dialogues aussi, qu'on appelle ou soliloques, ces lettres, parce qu'il y a une abondante correspondance aussi, et puis même parfois par ces sermons où il y a des traits biographiques. Et on a également des éléments. De sa vie qui a été écrite par son ami Posidius, qui était évêque aussi, qui va ajouter la liste des ouvrages de sa bibliothèque. Vous souvenez que sa bibliothèque, elle va être incendiée avec la prise de sa ville épiscopal Hippone par les Vandales. Augustin, il est mort finalement dans une ville assiégée par des barbares. Et d'ailleurs, si son corps est à Pavie actuellement, c'est qu'il a été rapatrié au moment d'autres invasions. Donc aujourd'hui, si on, c'est assez étonnant. On sait par exemple qu'Ambroise est à Milan puisqu'il était archevêque de Milan, Saint Charles Borromée est à Milan parce qu'il était archevêque de. Mais en fait, on pouvait se poser la question de, où est passé en Augustin. Eh bien, il est à Pavie, comme Athanase est finalement à Venise. Parce que les Vénitiens, produisant assez peu de saints, parce que Mammon et la sainteté faisant assez peu, pas bon ménage, finalement, ça leur permettait quand même d'avoir des liquidités pour acheter les reliques des vrais saints d'ailleurs. Et alors, quand ils les achetaient pas, ils les volaient. Et quand ils les volaient pas eux-mêmes, ils les volaient par les autres, par leurs débiteurs. Par exemple, la quatrième croisade. Voilà. Donc Athanase a été rapporté d'Alexandrie par des Vénitiens rusés qui, à l'époque où il y avait déjà des Mahométans à Alexandrie, avaient récupéré les reliques qu'ils avaient cachées sous des tonneaux de cochon, des tonneaux de lard. Et alors du coup, la douane... La douane a laissé passer pour pas se souiller. Et Athanase a débarqué à Venise. Alors qu'est-ce qu'ils ont piqué encore? Ils ont piqué Saint-Roch, ils ont piqué un certain nombre. Et ils ont eu quand même quelques saints, Saint-Jérôme-Émilien, qui a fondé des orphelinats. Et puis, celui qui a instauré le patriarcat, je crois bien, comment il s'appelait Ah, j'ai oublié. C'est le premier patriarche de Venise. Non, c'était Zéron de Vérone, oui. Non, c'est un autre, plutôt au XVe siècle, hein. Donc, voilà, ils ont. Alors là, bon, enfin bref, en tout cas pour Augustin, il se retrouve à Pavie. Alors, il est né en 354, donc à Tagaste. Tagaste, c'est en Algérie, mais à la limite de la Tunisie, dans la province de Numidie, dans une famille de la petite bourgeoisie provinciale. Donc, il est d'une famille. Ah, oui, c'est ça, c'est Saint-Laurent-Justinien. Ah oui, toi, tu es un peu vénitien.
C'est Google.
Ah, c'est Google, oui, c'est ça. Et donc, oui, c'est ça.
J'ai le second.
Le second, c'est qui?
Mafio Contarini.
Ah, Contarini, oui, c'était un grand cardinal. Il y a un cardinal Contarini qui était un des présidents du Concile de Trente. Peut-être pas canonisé, mais c'était un saint cardinal. Alors, Bessarion, oui, venait d'un Byzantin, oui, qui s'est installé à Venise. Oui. Augustin, vous voyez, il est un cran, sa famille est un cran en dessous de celle de Jérôme et plusieurs crans en dessous de celle de saint Ambroise. Alors, son père, Patricius, était certainement un officier subalterne de la. Donc, installé là-bas, qui avait pris sa retraite dans sa garnison.
C'était un Romain.
C'est un officier romain, oui. Et sa mère, semble-t-il, était une locale, une numide, alors. Hein. Alors, son père, donc sa mère était une fervente chrétienne. Et son père, finalement, se fera baptiser avant sa mort, comme pas mal de gens de l'époque, à commencer par l'empereur Constantin. Donc, en 371, Augustin perd son père. Donc, vous voyez, 17 ans. Il a un frère et une sœur. Et selon l'usage, il a été inscrit parmi les catéchumènes, mais pas baptisé. Il étudie d'abord à Tagaste, dans sa petite ville natale, puis à Carthage, qui est une des grandes villes, enfin qui est la capitale de toute l'Afrique du Nord latine. Et là, il rejette sa piété d'enfant à l'adolescence et se livre un peu à tous les plaisirs. Il aura plusieurs aventures amoureuses. Il aura également, il vivra longtemps en concubinage avec une fille d'humble condition, dont il aura un fils, Adéoda, en 372, qui mourra prématurément, enfin 15 ans, je crois. Et il ne congédiera cette femme qu'à Milan, en 384, sur les instances de sa chère mère, qui ambitionnait pour son brillant fils un mariage digne de ses ambitions. Alors, on ne sait pas si trop c'est les ambitions d'Augustin ou celles de sa mère. Donc on a vraiment l'impression que c'était une mère orientale.
C'est
au moins spirituellement, quoi. C'est mythe spirituellement. Voilà. Oui, on va se jeter une berbère, une kabyle. Hein. Et son premier choc, ça sera la lecture de l'Hortensius de Cicéron, qui est un dialogue, vers 374, donc vous voyez, il a 20 ans, qui va éveiller en lui l'amour de la sagesse qu'il ne cessera de chercher, même s'il va s'engager sur un certain nombre de chemins qui ne mènent nulle part, un certain nombre d'impasses. Voilà. Et dans les confessions, il dira « Je ne vis plus soudain que bassesse dans mes vaines espérances et je convoitais l'immortelle sagesse avec un incroyable élan du cœur. » C'est l'époque où il cherchait en fait à se placer après avoir fait ses études de rhétorique. Enfin, globalement, il avait fait le Sciences Po de l'époque et il cherchait à se trouver un cabinet ministériel. Hein. Pas pour rien qu'il était à Milan, hein, qui était un siège de gouverneur. Alors, du coup, il fait en même temps, alors, à cette période, il cherche à réussir dans la vie. Et d'un autre côté, il a cette expérience de recherche de la sagesse, les deux cohabitant dans une âme tiraillée, en somme. Et se souvenant qu'il est de milieu chrétien, il va essayer de trouver la sagesse dans la Bible. Mais il est dégoûté par toutes les histoires barbares de l'Ancien Testament et aussi par la pauvreté de la langue, de ces traductions latines faites pour des gens simples. Et il dira que la Bible était indigne d'être comparée à la majesté d'un Cicéron. Donc, lui aussi était un peu cicéronien comme Jérôme. Hein. Alors, il se fait manichéen, adhérant avec une certaine hésitation aux idées et encore plus à la voie ascétique des parfaits. Parce que, bon, les idées manichéennes, il n'était pas persuadé que c'était vrai, mais l'ascèse qui était demandée au parfait, ça le gênait quand même pas mal. Songez qu'il était toujours en concubinage. Il va essayer de. Vous savez, quand on ne veut pas vraiment se convertir dans les mœurs, on cherche toujours des arguties intellectuelles. Et donc, c'est la rêve pour avoir un alibi un peu noble. Hein, donc, et alors, pas très satisfait par la doctrine manichéenne, il va quand même essayer de voir un de leurs évêques. Et il va être horriblement déçu par cet évêque, finalement, pas très intelligent. Ça va le faire reculer encore d'un cran, et c'est à ce moment-là qu'il découvre les platoniciens. Parce que jusqu'à présent, et c'est quand même intéressant de s'en rendre compte, Augustin, qui a quand même étudié dans des bonnes écoles, n'avait pas pris conscience que la réalité, que le cosmos, n'est pas uniquement matériel. la découverte de l'incorporéité de l'être et du divin, c'est pour lui une découverte platonicienne. C'est par les platoniciens qu'il va découvrir qu'il y a une profondeur au-delà du sensible. Pour lui, jusqu'à présent, et y compris dans sa période manichéenne, le bien et le mal, tout ça, c'était dans l'ordre sensible, dans l'ordre de la matière. Et il faudra faire cette découverte avec les, il fera cette découverte avec les platoniciens qu'il y a un au-delà des sens. Et ça va beaucoup le marquer.